vous entendez. Assistez donc aux émissions, pénétrez dans les coulisses, célébrez les succès d'Europe 1. Vous entrez dans la grande famille Europe 1. Pour en savoir plus, vous prenez rendez-vous sur europe1.fr dans la rubrique Club Europe 1.
16 millions, c'est l'équivalent de la population de Paris, Bordeaux et Lyon réunis. C'est aussi le nombre de personnes dans le monde qui ont choisi Renault Clio depuis 1990. Et ce nombre continue d'augmenter, puisque Clio est la voiture la plus vendue en France en 2024. Renault Clio Génération est en édition limitée dès 16 900 euros. Portes ouvertes du 12 au 16 juin.
Source Renault, immatriculation mondiale de 1990 à 2024. Source 3 à data janvier 2025. Clio Génération SCE 65 hors option. Offre à particulier du 1er au 30 juin selon stock disponible. Voir Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Au carillon d'Europe 1, le Flash Info vous est présenté par Maël Hassani. Bonsoir Maël.
Bonsoir Valérie, bonsoir à tous. Moins de 100 missiles iraniens tirés sur le territoire israélien et la plupart interceptés. C'est ce qu'annonce ce soir l'armée israélienne après la riposte massive de Téhéran à l'offensive sans précédent menée par l'État hébreu en Iran. Les villes de Jérusalem et Tel Aviv particulièrement ciblées. La population israélienne autorisée ce soir à quitter les abris. Pas de bilan humain communiqué pour le moment. Mais d'ores et déjà, Benjamin Netanyahou assure que d'autres frappes sont à venir. Le Premier ministre israélien, qui considère l'offensive menée depuis la nuit dernière contre l'Iran comme l'une des plus grandes opérations militaires de l'histoire de son pays, le programme nucléaire iranien directement visé, plus de 200 cibles touchées, des installations mais aussi des sites militaires, des cadres du régime des Mollahs éliminés. Le guide suprême iranien s'est exprimé ce soir. Il assure que l'État hébreu a, je cite, lancé une guerre qui le mènera à sa ruine. Le monde entier regarde avec inquiétude vers le Moyen-Orient. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence il y a 2 heures. Emmanuel Macron s'est exprimé depuis l'Élysée en début de soirée. Le président de la République rappelle le droit d'Israël à se défendre face à l'avancée de l'Iran vers l'arme nucléaire, tout en appelant les deux parties à la retenue. Le dispositif Sentinelle sera renforcé pour prévenir toute menace contre le territoire national. Le président américain Donald Trump et le Premier ministre Keir Starmer rappellent l'importance de la diplomatie et du dialogue. Dans l'actualité de ce vendredi soir également, après l'accident d'autocar dans la Sarthe à la mi-journée, les deux chauffeurs de nationalité ukrainienne sont placés en garde à vue pour homicide et blessures involontaires. Pour une raison encore inconnue, le véhicule s'est renversé sur l'autoroute A81. 4 passagers âgés de 15 à 17 ans sont morts, 9 autres sont grièvement blessés. Cet autocar transportait des collégiens et lycéens ukrainiens en voyage scolaire dans le Morbihan. Ce viol à caractère antisémite avait bouleversé la France entière en pleine campagne des législatives. 2 mineurs condamnés ce soir à 9 et 7 ans de prison ferme pour le viol d'une fillette l'année dernière quand la victime n'avait que 12 ans. Les accusés nourrissaient à l'égard de la confession juive, une haine profonde, notamment au travers du conflit israélo-palestinien, précise le tribunal dans sa décision. 1500 personnes réunies à Nogent, en Haute-Marne, en début de soirée. Une marche blanche organisée pour rendre hommage à Mélanie, cette surveillante tuée par un adolescent de 14 ans devant un collège mardi matin. Le meurtrier est mis en examen et placé en détention provisoire depuis hier. Une cagnotte en ligne toujours ouverte pour soutenir les proches de la victime. Et puis 23 départements toujours en vigilance orange aux orages ce soir. Des chutes de grêle et de violentes rafales de vent dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays. La région parisienne est concernée. 20% des vols sont annulés ce soir à l'aéroport d'Orly. Vous écoutez Europe 1, il est 23h03 et c'est la suite de la Libre Antenne avec Valérie Darmon.
Merci Maël Hassani, on vous retrouve à minuit pour de nouvelles informations.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe 1, la Libre Antenne,
Valérie Darmon.
Et si vous nous rejoignez maintenant sur Europe 1 dans la Libre Antenne, d'abord un grand merci à vous de partager votre temps avec nous. Et puis n'hésitez pas à nous appeler au 01 80 20 39 21 ou à nous laisser un SMS au 7 39 21 précédé du mot nuit ou encore à nous écrire à libreantenne@europe1.fr en nous laissant votre numéro de téléphone pour que Nicolas et Amandine vous rappellent. Et puis surtout, à l'occasion de la semaine de la grande famille Europe 1 qui aura lieu lundi prochain, de lundi à dimanche prochain, vous vous aussi, vous pouvez rendre hommage aux gens que vous aimez, aux personnes qui comptent pour vous. Et si vous souhaitez passer sur l'antenne pour rendre hommage aux gens que vous aimez, n'hésitez pas à nous contacter dès ce week-end, parce qu'on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime qu'on les aime. Françoise, je vous retrouve pour évoquer la grande tristesse de votre frère, qui est actuellement à l'île de la Réunion, où votre neveu a trouvé la mort en ce tout début d'année, suite à un airbag Takata défectueux. La justice a tranché dans ce sens aussi. Vous attirez notre attention sur ce sujet qui n'est pas assez médiatisé selon vous, et surtout dont on fait assez peu de cas, puisqu'on n'a pas entendu parler, en tout cas pour la majorité d'entre nous, du rappel de ces voitures qui sont porteuses donc de cet airbag Takata.
Voilà. Il y a eu des centaines de morts, et même en France récemment, dans le Sud-Ouest, encore une jeune femme est morte. Alors, on peut mourir, on est mort, ça y est, mais quand on est défiguré, qu'on a l'épaule arrachée, que les yeux sont crevés, qu'on a les joues qui pendent de part et d'autre, je m'excuse de décrire ça, mais c'est abominable, les souffrances qu'on peut avoir. Il suffit juste d'aller vérifier sur le net, vous voyez. Et je voudrais pas que sa mort...
ne serve à rien. C'est
ma seule demande, et qu'on n'éteigne pas, qu'on en parle et qu'on en reparle, et que toutes ces morts soient pas inutiles. Je sais qu'il y a, c'est horrible, on est en guerre, il y a des tas de la catastrophe d'avion hier. Chacun voit ça, je vois ça dans mon sein personnel. Je ne suis que sa tante, en fait. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, mais on communique et on se téléphone, et vous voyez. Mais là...
Mais surtout, donc, vous êtes le soutien de votre frère, surtout, qui a perdu un enfant et son fils unique.
Tout à fait. Voilà, parce qu'il avait une fille, mais sa fille, mais bon, c'était pas du tout la même relation. Et puis, un enfant n'en remplace pas un autre.
Bien sûr.
Et nous, 8 jours après, avec ma fille aînée, on a pris un avion et on est allé soutenir mon frère, mais on n'est resté que 8 jours. Mais rien que le fait, on n'a pas calculé, si vous voulez, on y est allé, mais je suis impuissante. Tout ce que je ferai, ça ne va pas lui ramener son fils chéri, vous voyez.
Oui, mais vous pouvez sauver d'autres vies. Vous pouvez sauver d'autres vies.
Ah, voilà, bah c'est ça.
D'où l'objet
c'est
de votre appel ce soir. Est-ce que, où est-ce qu'on se renseigne? Est-ce qu'il y a un site, je ne sais pas moi, du gouvernement, des constructeurs on se tourne vers qui pour avoir ce genre d'informations? Parce que j'imagine bien que les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent ce soir, et moi la première d'ailleurs, je vais me préoccuper de l'airbag de ma voiture. Ça, c'est certain.
Voilà, je l'ai dit à mon médecin, même mon médecin ne le connaissait pas. Alors, Rosemée, la dame qui préside l'association... On en a parlé récemment. Il y a quelqu'un qui est allé à la télé qui en a parlé, mais vaguement et sur CNews, bien sûr. Oui. Alors, c'est l'association A comme association, D comme défense, V comme victime, ADV.
ADV.
Airbag, tout collé, AIRBAG, @orange.fr. ADV Airbag, @orange.fr. Il suffit juste de leur envoyer un petit mail et ils vont vous répondre. Ça bouge très lentement. Que choisir, à effrôler le problème? C'est pas un problème qui, vous voyez, qui fait du buzz, comme on dit. Il y a peut-être pas encore eu assez de morts. Voilà.
La voiture de votre neveu, elle n'avait pas fait l'objet d'un rappel?
Non. En fait, il venait de la racheter à son voisin. Donc, elle avait été vendue 2 fois. C'était une petite Honda Jazz. En fait, il avait créé son entreprise de location de voitures. Alors, on se dit, heureusement que ce n'était pas une famille avec des enfants, vous voyez, dans cette voiture, quelque part.
Oui.
Parce qu'il aurait pas survécu, lui, Dorian. Il avait trop d'empathie et d'amour pour les autres. Mais c'était quelqu'un de généreux. Dans l'enterrement, il y avait un monde fou de gentils. C'est toujours les meilleurs qui partent, hein, c'est vrai, mais c'est une horreur. C'est une horreur. Et on ne s'y attendait pas du tout, du tout. Ça vous arrive sur... Vous voyez.
Alors,
il faudrait que tout le monde fasse vérifier ses voitures.
Voilà, exactement. Et vous voyez comment la communauté de la Libre Antenne est une antenne solidaire. Vraiment une communauté solidaire. Et c'est pour ça qu'on vous aime tant sur Europe 1. Parce qu'on a un auditeur ou une auditrice qui nous donne le site où sont répertoriées les voitures concernées par ces airbags tueurs. Donc c'est www.largus.fr et donc /actualité. On va le mettre sur la page Facebook de l'émission, hein. Nicolas va s'en charger. /actualité-automobile airbag-takata-, la liste des marques et des modèles touchés par des rappels en Europe. On va vous mettre toutes les informations sur la page Facebook de l'émission. Et merci beaucoup, beaucoup, Françoise, d'avoir attiré notre attention ce soir sur, sur ces airbag tueurs, tout simplement. Hein. La formule est très bien trouvée, dont on parle trop peu. Merci beaucoup, Françoise. Essayez d'inciter votre frère tout de même à consulter un thérapeute tout de même. Bon, aujourd'hui, peut-être que sa douleur est atténuée parce qu'il est dans le déni.
Tout à fait.
Mais on ne sait pas combien de temps le déni va durer, voyez.
Mais ce qui se passe, c'est aussi que comme il est dans la maison de Dorian, bon, il dort dans son lit et tout, il a plein de signes, des signes bizarres, et il me les explique, certains, c'est vraiment... Et nous ne sommes pas croyants, lui et moi, et il a plein de signes de l'au-delà qui correspondent à son fils, vous imaginez. Alors, est-ce que c'est lui qui crée ça? C'est encore un autre problème, ça.
Ah, bon, alors après, tout dépend évidemment des croyances. Ça c'est certain, même quand on n'est pas croyant d'ailleurs.
Tout à fait.
Mais on a beaucoup de témoignages dans la Libre Antenne d'Europe 1 qui vont dans ce sens, hein, de signes des défunts. En tout cas, si ça fait du bien à votre frère, parce que le départ de son fils est tout récent, eh bien tant mieux.
4 mois. Ouais, voilà. C'est ça, 4 mois et demi.
C'est ça, hein, tant mieux. Si ça lui fait du bien aujourd'hui, si ça lui rassure, si ça atténue la douleur du décès. Parce qu'en fait, ce n'est qu'une continuité, parce que la mort n'est qu'un passage, alors,
c'est ça.
Pourquoi pas Mais
à suivre
psychologiquement, oui. Tout de même, ce serait quand même bien qu'il voit quelqu'un pour en parler.
Ouais, ben, ça ne va pas être facile, parce que, vous savez, c'est une autre génération, et quand il m'a dit la semaine dernière, il m'appelle tous les 2 jours, qu'il a fait son deuil, que tout va bien, que tous les jours Dorian lui parle, je me dis, il devient fou, vous voyez, Dorian lui parle tous les jours, parle à son père, le protège, on entend de toutes les couleurs.
Et si à un moment donné, il ne lui parle plus, qu'est-ce qui va se passer? Donc il peut décompenser.
Tout à fait. Hein,
c'est pourquoi le suivi psychologique, c'est bien. Bon, il vous avoue, même si ce n'est pas tout à fait votre rôle, Françoise, mais en tous les cas, vous vous soutenez mutuellement et vous êtes là pour lui aujourd'hui, et vous accueillez sa parole et ses propos, c'est ça qui compte en fait.
Parce que je transpose, inconsciemment, je transpose. Moi, je ne pourrais plus vivre. Je ne sais pas ce que je ferais si j'ai que 2 filles, mais comment on peut survivre? C'est tellement une mort injuste, voyez-vous.
Oui.
C'est injuste.
Bien sûr.
Toutes les morts sont injustes. Mais là...
D'autant plus. Ben oui, d'autant plus parce que... Il roulait, enfin, il y avait a priori aucun problème, à part ce problème de...
Il roulait pas vite, c'était à la chaloupe, et quand nous y sommes allés, quand on est repassé sur cette route, d'après, je vais vous dire, pour nous, qui nous emmène à l'aéroport, c'est la route qui mène de Saint-Denis, vous voyez, à la Possession, un petit là, son visage s'est tordu, vous savez, comme Quasimodo, la mâchoire inférieure s'est carrément déplacé. En fait, c'était la douleur dans son visage parce qu'il passait à l'endroit où son fils avait rendu l'âme, comme on dit. Et c'est là où j'ai cette vision en moi qui part jamais.
Ouais, la douleur de chagrin. Bon, pour des images traumatiques comme celle-là, Françoise, puisque vous écoutez la Libre Antenne souvent, moi je suis praticienne EMDR à la ville. L'EMDR aide énormément en une séance ou 2 séances. Pour gommer ces images traumatiques.
Si on a dans... ben, c'est ça. Et même au cimetière, c'était encore pire quand nous sommes allés au cimetière. Il ne veut pas pleurer devant nous, vous voyez. C'est une horreur. En fait, je crois que j'ai encore plus mal au cœur pour mon frère que... Bon, il a perdu son fils, mais c'est ça.
Oui.
C'est dur à dire ça, mais... Bon, il est parti, paix à son âme. Il est sûrement mieux là où il est, peut-être. Mais mon frère, comment... Ma fille me dit, tonton, il est digne. Mais est-ce que c'est de la dignité?
Peut-être de la pudeur aussi.
C'est ça.
Peut-être de la pudeur. Vous avez. On a Anne au 739-21 qui nous écrit qu'en métropole, on a rappelé les voitures concernées. Ce mois-ci, il y a encore eu un mort en Guadeloupe. Elle a mis l'article sur le messenger de Nicolas. Donc je le dis aussi à Nicolas, puisque je découvre le SMS en même temps que je vous le lis, chers auditeurs.
C'est bien, c'est bien qu'on en reparle. Je vous remercie infiniment.
Merci à vous surtout, Françoise. Donc prenez bien soin de vous et de votre frère et de votre famille.
Merci Valérie.
Je vous embrasse.
Au plaisir peut-être de vous parler à nouveau.
Avec plaisir.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Bonne.
Mon compte en banque a découvert, et moi qui lui fais croire que je suis milliardaire, n'importe quoi.
Moi, c'est ton charme et ton odeur qui ont fait s'emballer mon cœur, des choses qui ne s'expliquent pas.
N'importe quoi je ferais pour elle, pour pas la perdre, pour qu'elle m'aime, c'est pas mentir chez moi.
Je vais pas te quitter pour un autre homme, je m'en fous de ton curriculum, dis pas n'importe quoi.
Planter ma caisse dans le décor, 3 grammes de tristesse dans le corps, mon Dieu, n'importe quoi. N'importe quoi je ferais pour elle, pour pas la perdre, pour qu'elle m'aime, c'est pas mentir chez moi. N'importe quoi je lui raconterais, faire passer le faux pour du vrai, c'est pas mentir je crois. Comment lui dire que dans la voiture, mon pote n'avait pas la ceinture, c'était n'importe quoi.
Devant le juge, plus bas que terre, tu ressembles à tout sauf un père, à ce que j'attends de toi,
à ce qu'elle attend de moi. N'importe quoi je ferais pour elle, pour pas la perdre, pour qu'elle m'aime, c'est pas mentir chez moi. N'importe quoi je lui raconterais, faire passer le faux pour du vrai, c'est pas mentir je crois.
Toi tu m'as quitté sans raison, vraiment n'importe quoi.
Je reviendrai après l'été, tout lui dire sauf la vérité,
me dire n'importe quoi.
N'importe quoi j'ai fait pour elle, qu'elle garde l'image gravée.
Joyce, Jonathan et Charles ce soir dans votre Libre Antenne sur Europe 1, n'importe quoi.
La Libre Antenne d'Europe 1. Valérie Darmon accompagne vos nuits.
Bonsoir Bénédicte.
Bonsoir Valérie.
On vous trouve enfin.
Les aléas du direct.
Exactement, les aléas du direct. Alors, que puis-je faire pour vous? De quoi voulez-vous nous parler ce soir?
Alors,
sur l'antenne de
Je pensais vous parler aujourd'hui de la journée internationale de l'albinisme. Albinisme, je dis bien pas alpinisme.
Oui, albinisme, effectivement.
Oui, voilà. Voilà, c'est la journée internationale le 13 juin, chaque année, depuis 10 ans.
D'accord. Donc l'albinisme, c'est bien une pathologie qui touche les yeux, la peau, les poils, les cheveux. C'est bien ça? J'ai bien résumé?
D'accord. Tout à fait. Une maladie génétique.
Oui.
Qui est rare.
Oui.
Qui ne se voit pas beaucoup en Europe, mais qui existe tout de même, enfin dans tout le continent au-dessus, là, voilà. Mais qui se voit beaucoup plus en Afrique, à cause de la grosse différence des couleurs.
Oui.
De peau. Voilà. Alors, donc cet albinisme, il est très très complexe et on a au moins une vingtaine de formes différentes. Vous voyez, ça va du blanc de blanc au blanc un peu moins blanc et vers le roux aussi quelquefois. Et même simplement des personnes qui ont l'albinisme que sur les yeux.
Oui.
Alors, plusieurs formes d'albinisme parce qu'il y a enfin des stades différents de la mélanine. La mélanine, c'est ce qui colore nos poils, nos cheveux et nos yeux. Mais elle peut être partiellement absente ou elle peut être totalement absente. Voilà, ça fait des formes déjà différentes.
Différentes, oui.
Oui, et puis on peut avoir une peau très fragile, comme on peut avoir une peau un peu moins fragile, mais tout de même, il faut y faire attention. Et puis on peut avoir une vue très basse, ou alors une vue moins, un peu plus élevée. Enfin bon, par exemple, moi qui vous parle, je suis albinos, et je n'ai pas un dixième dans les yeux. C'est-à-dire que quand vous voyez 10 dixièmes, moi je vois même pas un dixième, quoi.
Et depuis toujours ?
Et encore avec un œil.
Depuis,
ah ben oui.
Toujours,
ah oui,
pardon.
Oui. Oui, oui. Alors, l'albinisme, c'est dans la conception. C'est une maladie génétique qui se manifeste, enfin, dès la naissance. Et même, elle se met en place entre la troisième et la quatrième semaine de grossesse. À cause de ce manque de mélanine qu'il y a dans les gènes.
Et est-ce qu'on peut la dépister à la myosynthèse, par exemple,
maintenant,
ou en échographie
Maintenant, on peut la dépister, mais non, on ne le fait pas en échographie parce que on met pas la vie du fœtus en danger.
Oui.
Mais bon, voilà. Et puis il y a des maladies plus graves. Mais on peut avant la conception avoir un tri des spermatozoïdes et des ovules. Quand on sait que le père et la mère sont porteurs, parce que ça peut aussi être une mutation.
Alors ça veut dire qu'il faut dépister maladie avant. Il faut y penser déjà.
Bon, oui, mais enfin, il y a d'autres maladies beaucoup plus graves.
Oui, bien sûr.
Parce que voilà, on vit quand même avec.
Oui, parce que dans la lignée, il n'y a pas forcément d'albinos. Ça peut être un gène mutant à un moment donné. Tout simplement.
Oui, tout à fait. Par exemple, moi, quand je suis née, on connaissait bien à peu près la généalogie de nos grands-parents et arrière-grands-parents, et on n'avait aucun albinos dans la famille. J'étais la première.
Ah oui.
Voilà. Ben oui, j'étais la seule à l'époque. Voilà, j'avais une sœur qui n'était pas du tout albinos. Alors on s'est dit, elle est passée à travers les maillons, enfin, voilà, elle est passée à travers, elle. Et puis finalement, deux générations après, c'est un de ses petits-enfants, donc une petite nièce à moi, qui est aussi albinos. Parce que l'un de ses fils a rencontré une femme qui portait aussi le gène, et lui aussi. Et voilà, on est deux dans la famille, mais c'était pas prévu du tout. Il y a des familles où ils sont plus nombreux, pardon, je vous ai coupé.
Est-ce que vous avez souffert d'être albinos, Bénédicte, ou pas du tout ?
Alors, moi j'ai eu la chance d'avoir une famille, surtout papa, qui était très... Enfin, il n'était pas protecteur, il était humoristique.
Ouais.
Il avait beaucoup d'humour.
Oui.
Et il a joué comme ça, de l'humour, avec ma vue, beaucoup. Et lui-même était myope, mais ça n'avait rien à voir avec mon albinisme. Moi aussi, je suis myope, mais c'est pas ça, l'albinisme. Hein. L'albinisme touche la rétine et la rend transparente. Voilà. Mais alors, il a joué avec l'humour. Et il m'a même dit, si tu sais, quand tu vas aller à l'école, quand on va te demander si tu vois... quand on va te dire que tu ne vois pas, tu répondras, c'est vrai, mais je vois assez clair pour voir les ânes. Donc, et puis il le disait souvent aussi, oh, mais vous savez, je vois assez clair pour voir les ânes. Et puis il blaguait comme ça sur sa vue.
Donc il a dédramatisé.
Dédramatisé, tout à fait.
Donc à l'école, vous n'en avez pas souffert ?
Ah ben à l'école, c'était pas évident, parce que j'étais dans une période d'apprentissage à l'école où on n'avait rien pour nous aider, malvoyants ou pas malvoyants, il n'y avait rien. C'est-à-dire que c'était l'école primaire de mon village. Quand il fallait que je sache ce qui était écrit au tableau, eh bien je m'avançais près du tableau et j'entendais dans mon dos « Dérange-toi !» Tu nous gênes, dérange-toi, tu nous gênes. Alors je me disais, il faut que je me dépêche de regarder ce qu'il y a là. Et puis je regardais, et j'allais vite à ma place, et j'essayais de retenir. Et bien quand je suis revenue à ma place, j'avais gagné en mémoire.
En mémoire, oui, c'est
vous
ça,
voyez,
vous avez compensé. Vous avez compensé.
De développer autre chose.
Oui.
Oui. Alors, bien sûr, à la période d'adolescence, ça n'a pas été aussi facile. Hein. Et puis même, autrement, quand on allait et venait à l'école, yeux de lapin, coton-tige, enfin, j'avais tout ce qu'il fallait.
Ah oui, oui. Vous avez quel âge aujourd'hui, Bénédicte?
J'ai 84 ans.
Ah oui, 84 ans. Donc elle...
Alors, je suis née pendant la guerre.
Oui.
Je n'ai donc été à l'école qu'en 1945. J'avais 4 ans.
Oui.
Mais j'ai appris à lire en même temps que les autres enfants de ma classe, en regardant de très près. Et la maîtresse, qui était prévenue par mes parents, bien sûr, elle a bien vu que je voyais pas bien, elle m'a un jour prise et elle m'a mise devant un tableau et elle m'a dit « on va chercher les i sur le tableau ».
Pain au chocolat ou chocolatine ?
Ah, je sais pas.
Mer ou montagne ?
Aucune idée.
Volkswagen ou...
Volkswagen !
J'ai pas dit la fin.
Ah mais Volkswagen, oui.
C'est parfois facile de choisir, surtout pendant les instants Volkswagen du 12 au 16 juin, avec le T-Roc à partir de 169 euros par mois. Pour l'achat d'un T-Roc VV édition 9, LLD 37 mois, premier loyer de 4000 euros, puis 36 loyers de 169 euros, si acceptation par Volkswagen Bank. Offre valable du 1er au 30 juin dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur Volkswagen.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Toujours, hein, et pas dans les moments de fatigue.
Oui.
Et puis si, par exemple, le mouvement est en biais, et il faut faire attention parce que à ce moment-là, pour le bloquer, parce qu'on essaie de bloquer ce nystagmus instinctivement. Et si le mouvement est en biais, on baisse la tête d'un côté et la colonne vertébrale peut avoir une déformation. C'est là qu'il faut l'opérer, le nystagmus.
Ah, ça s'opère.
Ça peut s'opérer dans des cas dont je vous parle là. Oui. Mais c'est pas très fréquent. Hein. C'est pas le plus souvent.
Et est-ce qu'il y a une rééducation possible ou pas du tout ?
Alors, la rééducation possible, c'est l'orthopsie, bien oui. sûr. Et puis, fréquenter maintenant qu'il y a les choses ont évolué, fréquenter des centres pour malvoyants, où on vous fait toute cette rééducation, de l'orthopsie, enfin, des
exercices.
Oui, et puis savoir se conduire, enfin, et puis on a d'autres défauts dans les yeux, c'est qu'on ne voit pas les reliefs. Alors pour marcher, on se prend des trottoirs, par exemple. Moi, mes plus grands amoureux, c'est les poteaux. Je les embrasse avec beaucoup d'amour, vous voyez.
Oui. Il y a combien d'albinos en France ?
Alors, on ne sait pas trop, c'est pas trop répertorié. Il y en a peut-être 1 pour 17 000.
Oui.
1 pour 20 000, 1 pour 17 000, on ne sait pas trop. Des naissances 30 ou 40 par an, c'est variable, mais ce n'est pas très répertorié tout ça. Et comme il y a des niveaux d'albinisme, il y en a qui ont 3 ou 4 dixièmes, s'ils ne sont pas très colorés, enfin s'ils sont un peu colorés des cheveux, ça passe inaperçu, on ne sont pas répertoriés, vous voyez.
Ah oui. Et après, vous avez travaillé, Bénédicte ?
Oui, j'ai été prof, un moment, j'ai été professeur de musique. Voilà. Et puis, un jour, avec une maman, je vais fréquenter le CHU de Rennes, où je suis, donc. J'ai été reconvoquée avec deux mamans qui avaient des enfants albinos. Deux chacune. C'était la première fois qu'elle rencontrait une adulte albinos. C'était en 1995. Et c'est à ce moment-là qu'elles m'ont bombardé de questions parce qu'elles ne savaient pas comment leur enfant allait évoluer, etc. Et on a discuté, donc. Et puis, ça a fait le tilt dans l'esprit d'une maman qui s'est dit, mais il faut qu'on crée une association.
Oui, pour c'est qu'on la question que j'allais commun. Vous poser. Est-ce qu'il y a des associations, évidemment, pour informer les parents ?
Oui. Voilà. Alors, donc, on a créé cette association pour, d'une part, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas du tout de recherche de fait en France. Et puis, d'autre part, on ne savait pas comment se renseigner, près de qui. On n'avait pas d'informations sur l'albinisme. C'était vraiment rien, quoi. Alors, donc, cette association a commencé, tout simplement, en Bretagne, sur deux départements. Et puis, l'année d'après, on était déjà au niveau national. Tellement c'était nécessaire, voyez.
Ah oui. Et elle existe toujours, votre association ?
Alors, notre association existe toujours. Elle a 30 ans, donc, puisque c'était en 1995.
Oui.
Elle existe toujours et elle...
Elle s'appelle comment ?
Gêne espoir. Alors, le mot gêne et le mot espoir,
donc, l'un dans l'autre. G-E-N-E-S-P-O-I-R.
Oui, voilà.
C'est ça. Très bien. On la trouve sur Internet ?
On la trouve sur Internet, www.genespoir.org. Oui, je crois que elle va être mise sur votre site, je crois.
Ah, très bien, oui, oui. Nicolas va s'en charger aussi,
oui,
en même
voilà,
temps qu'on va
fait,
mettre
tout à,
tout à l'heure les informations sur ce dont on parlait juste avant, c'est-à-dire les airbags tueurs.
Ah oui, aussi, oui, oui.
C'est important. Et il y en a beaucoup d'autres des associations qui parlent de l'albinisme en France
En France, on est à peu près les seuls.
Oui.
Je dis à peu près parce que il y a une émigration de personnes venant d'Afrique et qui ont créé des associations qui ont plus ou moins tenu des petites associations pour leur pays, quoi.
Oui.
Mais en France.
Ah oui.
Mais alors, donc, je ne sais pas actuellement ce qu'il y a exactement comme association, mais c'est la plus importante en France et on n'en connaît pas d'autres vraiment de. À ce niveau-là, quoi.
Donc, Jeanne Espoir, c'est pour informer et aussi pour favoriser ou informer sur la recherche, peut-être aussi
alors,
les progrès de la recherche.
Favoriser la recherche.
Oui.
C'est-à-dire que voilà, on fait tous les ans un appel à. Comment dire un appel d'offres pour les chercheurs pour pouvoir qui vont nous présenter leurs projets. Et d'après ce qu'ils présentent, on donne une subvention de, je sais pas, 7 000, 10 000, 15 000 euros que l'on récolte au fur et à mesure.
D'accord.
Alors donc, comme ça, la recherche a avancé. On a particulièrement un laboratoire, parce que ça a été la mise en place le plus vite, un laboratoire de recherche sur les gènes, la génétique, et se trouve à Bordeaux. Et ce laboratoire, ça fait 20 ans qu'on travaille avec lui.
Et comme ça, on peut prévenir, c'est ça ?
Prévenir, c'est-à-dire que quand l'enfant est né et qu'on s'aperçoit qu'il a quelque chose de pas normal dans les yeux et que ça ressemblerait à de l'albinisme, on fait un prélèvement du père, de la mère et de l'enfant que l'on envoie soit à Bordeaux et maintenant aussi, il y a un autre laboratoire à Paris. Et ces laboratoires analysent et disent si vraiment il y a un albinisme, ou bien disent on suppose que c'est albinisme, mais on n'a pas tout trouvé encore. Alors ils ont trouvé 70% à peu près des choses, et il leur reste 30% à chercher.
À chercher et à trouver.
Ouais, et à trouver.
Donc ça a beaucoup progressé.
Oui.
Donc la recherche a beaucoup progressé.
Ah ben oui, a progressé énormément. Puis alors les informations que l'on donne aux parents. Sont des informations plus solides que ce qu'on avait nous. On ne savait pas. Hein, la transillumination de notre rétine et de notre tout l'œil là qui manque de couleur, quoi.
Oui.
Alors la lumière nous agresse tellement que on est obligé de porter des lunettes assez teintées. Ou alors, par exemple, quand il fait beaucoup de soleil, avoir un chapeau à large bord, c'est aussi très bien. Mais pas un chapeau de paille avec des petits trous, hein.
Oui.
Un chapeau anti-UV.
Qui protège
et des
vraiment.
Des vêtements anti-UV. Alors, en France, on ne détecte pas forcément tous les albinismes, mais en Afrique, par exemple, c'est plus facile de détecter l'albinisme à cause de la différence de couleur.
À quoi les parents doivent-ils faire attention ?
Ah bien, à ce que l'enfant ne soit pas trop exposé au soleil. D'abord, lui apprendre. On a créé ce qu'on appelle un ETP, éducation thérapeutique du patient. Ça, c'est pas que nous, hein, c'est dans l'ensemble des maladies rares. Éducation thérapeutique du patient pour apprendre aux enfants ou même aux adultes à gérer leur albinisme, dans le cas de notre cas.
Est-ce que vous avez des enfants, vous, Bénédicte ?
Moi, je n'ai pas d'enfants, non. Mais j'ai aussi subi des choses. Par exemple, j'avais 7 ans. Maman m'avait conduit chez un ophtalmo qu'on ne connaissait pas, une femme. C'est pour vous dire, vous allez voir les choses, comme elles se pouvaient se passer et comme elles se passent encore quelquefois. Alors cette femme, donc, ausculte mes yeux. Maman dit, mais voilà, j'aimerais bien qu'elle puisse garder ses lunettes pour lire, parce qu'elle est obligée de les enlever et pour regarder de près. Et elle n'a pas des lunettes pour lire et pour se conduire à la fois. À l'époque, c'est vrai qu'on faisait... On ne portait pas déjà des doubles foyers. Oui. Ça allait venir, mais enfin bon.
Et puis il n'y avait pas les progressives à l'époque.
Ben non, bien sûr. Voilà. Ah ben les progressives, il ne faut pas y compter non plus à ce moment-là, bien sûr. Alors elle me dit, cette ophtalmo me dit, tu enlèves tes lunettes pour lire. Ah ben ça, par exemple, on va les attacher sur le nez. Ben oui, mais quand je vais me coucher le soir, ah ben tu coucheras avec.
Oui.
Et puis je ne sais pas ce qui m'a passé par la tête, je lui ai dit, mais quand je serai morte, ah ben on t'enterrera avec. Vous vous rendez compte?
Ah oui. Oui.
De la violence avec laquelle les gens pouvaient parler et peuvent encore parler des fois.
Oui, oui, ça manque un peu de psychoéducation auprès des praticiens de santé. Oui, ça c'est sûr.
Cette même ophtalmo, j'étais dans un coin en train de soi-disant m'amuser, mais j'avais une oreille à ce qu'ils disaient à côté, entre maman et elle. Et là, l'ophtalmo, sans précaution, sans rien, disait à maman, vous savez, il ne faut pas qu'elle ait d'enfants, hein, parce que si elle a des enfants, ils seront albinos. Voilà.
Ah oui.
Eh ben, je l'ai entendu, ça.
C'est une méconnaissance en plus de la maladie, non? Parce qu'elle n'est pas forcément...
Ben oui, mais ça enfin, si le conjoint n'a pas le gène...
Oui, voilà. C'est pas une obligation, c'est pas une fatalité, c'est ça. Donc elle était complètement à côté, cette ophtalmo.
Ah ben oui,
plus,
mais
hein.
C'est pour dire, on n'est pas à l'abri de n'importe quoi quand on grandit et quand... Et puis, au moment de l'adolescence, pour vous dire toutes les difficultés que j'ai pu avoir, au moment de l'adolescence, j'avais un professeur de musique qui n'aimait pas les albinos. Elle a même fait virer un prof qui était là et qui était bon prof, mais qui était albinos. Elle l'a fait virer.
Ah oui.
Parce qu'elle était albinos.
Donc il y avait de la discrimination.
Ah oui, oui, oui. Et un jour, je jouais une chose de Ravel, comment ça s'appelle déjà ? C'est plus la fille aux cheveux de lin. La fille aux cheveux de lin, bon d'accord. Elle me dit, oh ma pauvre fille, c'est pas la fille aux cheveux... Parce que j'étais morte de peur, hein, parce que je savais qu'elle m'aimait pas. J'avais un contrôle avec elle une fois par mois. Et j'avais peur. Elle me dit, ma pauvre, c'est pas la fille aux cheveux de lin que vous me jouez là, c'est la fille aux soies de porc.
Oh là là, ah oui.
Ça pouvait être violent, hein.
Ah oui, c'était violent, oui.
Oui, 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 oui. Mais bon, je crois que ados de maintenant, on peut avoir encore des choses aussi très, très, très dures à vivre. On n'est pas à l'abri hein, de choses comme
ça. On le voit, hein, le harcèlement moral, c'est quand même un vrai sujet, hein, de toute façon, dans les écoles, avec les professeurs et dans la vie tout court. Hein.
Mais j'ai eu la chance d'avoir une certaine force de caractère
qui m'a
permis de passer les étapes. Hein.
Ça vous a endurci, Bénédicte ?
Endurci, je ne sais pas, mais peut-être endurci. Je ne sais pas, je n'aurais pas dit ce mot-là. Ça m'a mise à l'abri de beaucoup de choses... Que j'ai su peut-être trouver pas très importante. Je me suis dit, après tout, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Quand j'avais 20 ans, par exemple, j'étais en voyage. Je me rappelle, j'étais du côté des Deux-Sèvres, j'allais vers Poitiers. Et un bus à prendre, un autocar à prendre, je ne voyais pas ce qu'il y avait d'écrit dans la gare routière. C'était très haut. Je m'adresse à un monsieur à côté de moi. Et je lui dis, monsieur, excusez-moi, je suis malvoyante. Pourriez-vous me dire ce qui est écrit là-haut ? Il regarde. Il dit, dites donc vous. Il serait temps de vous mettre à apprendre à lire.
Ah oui.
J'ai souri et je suis allée chez les voisins demander, les personnes à côté, demander la chose. Puis, vous voyez, j'étais déjà un petit peu...
Rodé.
Enfin, j'avais déjà fait mon...
Rodé.
Oui,
rodé,
voilà. Oui, c'est ça. Oui. Ça s'acquiert. Mais bon, ça veut pas dire qu'on n'a pas de souffrance, mais voilà. J'ai eu une force de tempérament, peut-être, oui.
La musique, vous l'avez apprise à l'oreille?
Ah non, c'était des cours de musique. Piano, violon, des cours de musique classique.
Ah oui.
Après ça, j'ai été professeur d'éducation musicale dans les écoles, dans les collèges et lycées.
Oui, mais pour apprendre le solfège, par exemple, vous apprenez en braille.
En braille, oui. Alors, pour le piano aussi, par exemple, on apprenait une main après l'autre aussi. Le solfège, oui, je l'ai appris en braille. Oui, c'est vrai. Parce que j'étais dans cette école où il n'y avait pas d'autres lectures musicales. Après, je me suis mise à lire sur les portées, mais comme je ne peux pas lire et jouer en même temps... Il fallait que j'apprenne par cœur, de toute façon.
Et oui, c'est ça. Vous avez développé plein de facultés, en fait. C'était la mémoire que vous développiez quand vous étiez enfant, déjà.
Oui, tout à fait.
Ouais. D'autres sens.
Et puis alors, je me suis aussi garantie un peu contre les choses
qu'on pouvait nous dire « Ah, vous, vous avez les yeux rouges ». Alors maintenant, je sais dire aux gens « Oui, aussi, c'est vrai que j'ai les yeux rouges, mais vous les avez rouges aussi, vous ». Ils me disent « Comment ? On n'a pas les yeux rouges, nous ». J'ai dit « Si, vos petits vaisseaux sanguins que vous avez au fond de votre œil, ils sont bien rouges. On ne les voit pas parce que votre rétine est colorée. Ma rétine manque simplement de couleur, c'est pour ça qu'on peut voir le fond de mon œil rouge. »
Oui, mais on l'a tous, en fait.
Mais bien sûr, on voilà. a tous le fond de l'œil rouge, mais yeux rouges. Et puis alors, vous voyez la nuit. C'est pour vrai, on voit pas la nuit. On voit mieux que d'autres personnes parce qu'on est, enfin, plus sensibilisé à la pénombre. Je ne sais pas comment dire.
Vous êtes plus habitué.
Habitué, oui, c'est ça, oui, oui. À nous protéger de la grande lumière. Et puis, on, voilà, quoi. Mais on ne voit pas la nuit. Si c'est une nuit noire, 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 pour nous, c'est noir aussi. Ça, c'est des blagues, ça.
Et votre petit accent, il vient d'où, Bénédicte ?
Mon accent ? Vous je suis bretonne.
Ah, voilà, d'accord, c'est
je
ça.
Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai un accent breton, mais je ne crois pas. Parce que je ne parle pas la langue bretonne dans mon secteur à moi, qui est du côté de Rennes, du côté du Mont-Saint-Michel.
Oui.
On n'est pas des bretons bretonnants.
En tout cas, je rappelle le nom de votre association, Jeune Espoir. Vous y êtes toujours oui. à 84 ans dans l'association ?
Ben oui aussi, mais bon, parce que le siège social est encore chez moi. Mais alors, voilà, je voulais surtout aussi vous parler, si vous permettez, de la souffrance des albinos qui vivent en Afrique ou qui viennent d'Afrique.
Oui, allez-y.
Parce qu'on en a qui viennent, enfin parce qu'ils ne peuvent plus vivre là-bas tellement ils sont persécutés. Ça, c'est une très, très grande, enfin, tristesse pour eux, parce que l'albinisme n'est pas encore considéré comme une
maladie.
Affection génétique.
Ouais.
Oui, bah, attendez, vous dites maladie, moi je dis on a une maladie, mais on n'est pas des malades.
Oui, d'accord.
Voilà, mais bon, l'albinisme, c'est une honte pour les... Ou alors c'est un présage de bonheur. Mais ça vaut pas mieux parce que dans certaines civilisations, comme par exemple les Kunas de l'Amérique centrale, c'est un peuple qui a vécu en autarcie depuis un certain temps, et ils sont de moins en moins nombreux, donc ils se mélangent de moins en moins. Ils ne mélangent pas du tout à la population qui les environne, de toute façon. Ils vivent en autarcie, vraiment. Et là, le gène de l'albinisme se multiplie chez eux.
Ouais.
Et par exemple, quand il y a une... comment on appelle ça ? Quand le soleil disparaît pour être comment vous dire ?
Une éclipse ?
Une éclipse de soleil. Une éclipse de soleil, eh bien, on demande à un albinos de regarder bien devant le soleil, de regarder pour que le soleil ne soit pas mangé par et qu'il puisse revenir le jour suivant. Et le résultat, c'est que cet albinos-là, il a perdu la vue le lendemain.
Ben oui, bien sûr.
Et là, il regarde le soleil,
oui.
Et le dragon n'a pas mangé le soleil. Donc, c'est grâce à lui, il est honoré, mais il est...
Mais il a perdu la vue.
Mais, alors c'est un présage de bonheur pour cet albinos-là, comme de malheur pour lui, quoi. De bonheur pour les autres et de malheur pour lui, voyez.
Ah oui, effectivement.
C'est un double tranchant, tout ça. Oui.
Ouais. Merci beaucoup, Bénédicte, d'avoir été avec nous ce soir sur l'antenne d'Europe 1 et d'avoir partagé...
Je peux encore ajouter quelque chose ?
Allez-y, on vous écoute.
Parce que j'en ai plein. Les albinos qui vivent à Madagascar,
oui.
Mais ils sont complètement abandonnés à leur sort si on les ramasse, enfin si on les parque pas dans un endroit où ils vont être protégés, parce qu'ils sont tués presque systématiquement, vous voyez.
Tués presque systématiquement.
Ah, oui. À Madagascar, oui, en ce moment, oui. Il y a des régions aussi en Tanzanie, ils sont très 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 en danger, vraiment en danger. On vend l'albinos en morceaux des fois. Un petit morceau, le sexe, le bout d'un doigt, etc. C'est un vrai trafic. C'est encore de la coutume, malheureusement.
Ah oui.
Et c'est pour cela qu'on a une journée internationale de l'albinisme qui a été créée en 2015. Oui, 2015. Et puis, c'est patronné par l'ONU, et une personne qui... fait des enquêtes dans différents pays et pour protéger les albinos. Mais alors malheureusement, en ce moment, son mandat est en danger parce que l'ONU n'est plus patronnée par les États-Unis. Vous savez, les États-Unis ne participeront plus au...
Oui, oui, oui.
Alors, son mandat est en danger, vous voyez.
Ah oui, c'est terrible. En tout cas, merci beaucoup, Bénédicte, d'avoir partagé avec nous ces informations, parce qu'on est très, très loin de se douter du sort réservé aux albinos dans ces pays-là que vous nous avez cités, mais bien sûr.
Ah oui, c'est terrible, terrible, terrible. Oui. Et ceux qui viennent en France, qui ont essayé de passer les frontières, un peu par tous les moyens, Lampedusa, etc., ils sont pas non plus. Ils souffrent encore, quoi. Ils souffrent beaucoup. Et pour se faire admettre en France, par exemple, il faut passer par devant une commission qui s'appelle l'OFPRA. Et s'ils ne sont pas au courant de beaucoup de choses, et ils sont très peu au courant, malheureusement, ils ne sont pas admis à rester en France.
Oui, parce que là, ce sont de vrais réfugiés politiques, en revanche.
Ce sont des réfugiés, je ne sais pas si c'est politique, mais oui, on peut dire politique.
Ah oui.
Oui, c'est dur pour eux.
Ah oui,
alors,
Et votre association, elle milite pour les sauver.
Oui. Alors, quelquefois, quand ils arrivent, parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des albinos européens, les Africains, ils ne voient l'albinisme que chez eux. On est blanc, qu'est-ce que ça peut faire? On est blanc, nous. On est blanc de blanc, mais on est chez les blancs. Tandis que eux, ils ont la différence de couleur tout de suite, ça les singularise, quoi.
Oui, ça les stigmatise.
Et alors ils ne savent pas qu'on a une association. Et quand ils la découvrent, alors là, ils sont contents, mais c'est peut-être quelquefois trop tard. Et puis, il faut voir ce qu'ils nous racontent, parce que j'ai deux ou trois cas là en ce moment de personnes qui sont arrivées il y a pas longtemps. C'est affreux. Une jeune femme, par exemple, qui a contracté le sida parce qu'on l'a obligé à avoir des rapports sexuels avec un jeune homme qui avait le sida pour qu'il guérisse du sida. Pour qu'il guérisse du sida, il fallait qu'il y ait des rapports avec une albinos. Ben, le résultat, c'est qu'elle a le sida. Elle a contracté le PIH, quoi.
Quelle horreur ce que vous nous racontez, Bénédicte, ce soir.
Ah mais non, c'est vrai. Hein. Et puis une autre, par exemple, elle a vu, quand elle avait 10 ans, elle a vu sa sœur violée devant elle, sa sœur qui avait 12 ans, elle était albinos aussi, elle a vu sa sœur violée devant elle par un de ses grands-oncles. Et quand elle a été violée, mais il a convoqué le village pour la sacrifier, devant la petite de 10 ans. Mais attendez, l'histoire n'est pas finie. Et ça, c'est une histoire vraie, hein, qui m'est arrivée il n'y a que quelques mois. Et quand, plus tard, elle avait une autre petite sœur qui était aussi albinos, elles étaient donc trois, et un jour, celle qui avait 10 ans, quand je vous raconte le fait, elle avait pris de l'âge, bien sûr, et elle a entendu que c'était à son tour d'être sacrifiée. Alors elle a pris sa petite sœur par la main et elle s'est dit « on va partir ». Et elles ont essayé de migrer en France, pas en France, mais de prendre le bateau, là, vous savez, dans le nord de l'Afrique. Et le bateau était tellement chargé que la plus jeune a été... le bateau a coulé et la plus jeune a été noyée. Alors, la deuxième, toujours, courageuse, a retravaillé, je ne vous dis pas dans quel genre de travail elle a fait. Et elle a pris le bateau et elle est arrivée à Lampedusa et puis après à Paris. Et elle est arrivée à Nantes, où elle a accouché parce qu'elle était enceinte. Et elle demandait toujours à Nantes est-ce que ma petite fille est albinos, est-ce qu'elle est albinos. Quand ils l'ont vue aussi...
Désemparée
de savoir si la petite était albinos, ils m'ont téléphoné, c'est comme ça que je l'ai connue.
Oui.
Ça fait quelques mois de ça.
Eh ben vous faites un travail formidable, Bénédicte.
Mais c'est terrible, ça. On n'imagine pas toute la souffrance.
Non, on n'imagine pas du tout.
Oui. Voilà.
Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience de vie et surtout l'histoire de ces personnes que vous aidez au quotidien. Je rappelle le nom de votre association, Gène Espoir.
G-E-N-E-S-P-O-I-R. www.lajoyer.org.
Merci beaucoup Bénédicte, merci, voilà,
merci
beaucoup.
Valérie.
À bientôt,
et
au revoir.
Bonne soirée à tous.
Merci. Ce soir, dans votre libre antenne sur Europe 1, Cambodia.
Vous aussi, venez vous confier à Valérie Darmon en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, Europe 1.
Et notez bien, s'il vous plaît, sur vos agendas, je vais y arriver, sur vos agendas, que la semaine prochaine, votre radio préférée réunit la grande famille Europe 1. C'est une semaine exceptionnelle. Venez rencontrer vos animateurs, découvrez comment les journalistes travaillent, préparent l'information libre que vous entendez, assistez aux émissions, pénétrez dans les coulisses et célébrez les succès d'Europe 1. Entrez donc dans la grande famille Europe 1. Pour en savoir plus, rendez-vous sur europe1.fr, rubrique Club Europe 1. Bonsoir Dominique.
Bonsoir Valérie.
Merci d'être avec nous ce soir, d'avoir composé. Avec plaisir. Et je rappelle le numéro du standard 01 80 20 39 21. De quoi voulez-vous nous parler ce soir? Que voulez-vous nous confier?
Alors, d'abord, c'est une grande surprise, je ne vous aurais peut-être pas appelé, mais j'ai entendu les appels précédents.
Oui.
Alors, je vais faire un petit clin d'œil sur la musique entre Kim Wilde et Johnny Winter. Johnny Winter était un albinos et jouait très bien de la guitare. Ça, c'est pour faire le clin d'œil.
Ouais.
La personne qui était avant, de Nantes à Nantes.
La transition avec Bénédicte, exactement.
Et Bénédicte appelait de Nantes et j'appelle de Nantes.
Ah, bon bah très bien. Et moi, je connais très bien la région nantaise.
À la bonne heure.
Et oui, très très bien.
Bon, à la bonne heure, si on peut le dire à cette heure-là.
À cette heure-ci, il est presque minuit. D'ailleurs, on va se parler avant le flash et après le flash, parce que dans quelques instants, on va accueillir Maëlle Hassani. Alors, je vous écoute, Dominique de la région nantaise. Déjà, vous avez quel âge, Dominique?
Alors, Dominique, il a 68 ans, bientôt 69 ans.
D'accord.
Donc, année 56. Et il se porte bien, il est à la retraite. Mais ce qui m'a appelé à vous appeler,
oui,
c'est que j'ai trouvé que les appels étaient un peu... Je ne vais pas dire triste, mais un peu contrit. Et je me suis dit, j'aimerais raconter une histoire de santé,
oui,
qui soit optimiste. Et c'est celle que je voulais vous raconter.
D'accord. Votre histoire à vous?
C'est mon histoire à moi. Enfin, c'est ce qui m'est arrivé.
D'accord. Alors, on peut la commencer maintenant, mais dans à peu près 1 minute 30, Maëlle va commencer le flash info. Mais on vous écoute, Dominique. On s'interrompra dans quelques instants.
Donc Dominique, il est au Vendange, c'est une de ses nièces qui est vigneronne dans le Muscadet.
Oui.
C'est pas étonnant dans la région nantaise. Et donc il va lui rendre service et il va faire la vendange. Et pendant deux jours et demi, il est accroupi et il coupe les grappes et ainsi de suite. Et tout va bien jusqu'à la fin de la vendange. Lorsqu'il se relève après deux jours et demi. Or, j'ai pas vendangé la nuit. Hein.
Oui, j'imagine bien que vous avez dormi à un moment donné.
À un moment donné.
Vous avez quel âge lors de ces vendanges-là?
Il y a 2 ans et demi à peu près.
D'accord. Donc vous aviez 67
ans. On enlève 68,2, 66.
Oui.
Et j'étais au début de ma retraite.
D'accord. Alors vous savez quoi? On va s'interrompre maintenant. On appelle ça du teasing dans le jargon des journalistes. On commence à rentrer dans les coulisses d'Europe 1. Hein. C'est la semaine prochaine, la semaine spéciale, la grande famille Europe 1. Mais je le dis, c'est du teasing dans notre jargon. Et on se reparle dans à peu près 3 minutes.